Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Il lui dit, je vais vous amener vos affaires. Il y a eu une erreur monumentale. Excusez-nous. Excusez-nous. Et il le quitte. Il va chercher les affaires. Et les lui apporte. Tenez. Frédéric lui dit, que se passe-t-il? Le garde lui dit, il y a eu une erreur monumentale. On ne savait pas qui vous étiez. Frédéric lui dit, et mon compagnon, Didier. Le garde lui dit, pourquoi vous étiez deux? Oui, je vais me renseigner. Et il sort de la pièce. Le directeur a la fuite dans son bureau. Il lui dit, vous avez fait une erreur monumentale. Il faut payer. La fuite lui dit, pas savoir qui il était, il traînait dans les rues. Le directeur lui dit, tout le monde traîne dans les rues. Vous auriez dû lui poser des questions. Nous avons failli mettre en bouillie le fils d'un de nos actionnaires. Vous mériteriez, vous méritez même. La punition suprême. La fouine lui dit, je vous en supplie, monsieur. Non, je suis pour rien. Je ferai attention la prochaine fois. » Gaëtan lui dit.
« Il paraît qu'ils étaient deux. »
« Oui. »
« Et qu'est devenu l'autre ?»
La fouine lui dit. « Je sais pas. Il a disparu. » Gaëtan lui dit.
« Je ne vous donne qu'un blâme. Mais la prochaine fois, ce sera l'usine à porter. Compris ?»«
Oui, monsieur le directeur.
Vous pouvez disposer. »
Il le quitte. Le directeur réfléchit. Que faut-il faire? On ne peut pas le garder.
Frédéric, il est impossible de le garder.
Frédéric est dans la chambre. La porte s'ouvre. C'est une femme en blouse blanche. Elle lui dit, « Monsieur, voici en remontant pour vous remettre de tout ça. C'est une regrettable erreur. » Elle lui tend un verre de lait. Il a soif, il le boit. C'est bon, chaud et sucré. Après qu'il ait bu, la femme lui dit, « Reposez-vous, je vais vous faire quitter l'établissement. » Et elle quitte la chambre. Frédéric se retrouve tout seul. Il se dit qu'il se trouve dans un endroit très louche et dès qu'il sera sorti d'ici, il ira à la police raconter tout ça. Et son ami Didier, où est-il? Le pauvre petit, il doit être perdu au milieu de tout ça. Il se sent un peu lard. La journée a été longue. Il va s'allonger sur le lit. Se détend. Se sent mieux. Ses paupières se ferment. Il a sommeil. Il se détend. Se sent mieux. Ses paupières se ferment. Il a sommeil. Trop noir. Rien. Petit à petit, il se réveille. C'est la fraîcheur qui le réveille. Et il se trouve en pleine nuit, dans la rue, le dos contre le mur, contre un mur. Il a froid et se demande ce qu'il fait là. Il se lève difficilement et trouve, voit qu'il est allongé
le dos au mur, de la façade de l'immeuble de sa famille. Il n'y comprend rien. Que fait-il ici? Que fait-il ici? Pourquoi est-il venu ici? Il se souvient qu'il est parti de chez ses parents pour ne plus y revenir. Après les cours, il a traîné dans les rues la nuit et est allé à la gare de Lyon à rencontrer Laurent. Ils sont allés chez lui. Il a laissé le lendemain matin. Il se souvient de plus rien. Rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi il est là? Bon, ce n'est pas grave. Je vais partir. Mes parents m'ont mené ici par hasard. L'agent de police s'approche de lui et lui demande « Que fais-tu ici, toi, à traîner dans les rues ?» Frédéric panique et lui dit « Mes parents habitent ici. »« C'est vrai ?»« Oui, monsieur. » Dit « C'est bien vrai, ça. On va aller chez tes parents. » Frédéric lui dit « Pas la peine, monsieur. J'ai ma carte. » L'agent lui dit « Pas de chance. J'ai oublié mon écran. Allez, entrons. Ton nom. »
Porsche.
L'agent appuie sur l'interphone. Il attend un peu.
Oui.
Bonjour. Police nationale. Je vous amène votre fils.
Bien.
Vous pouvez entrer. Ils entendent le déclic de la porte qui s'ouvre. Ils entrent. Et vont prendre l'ascenseur. C'est à quel étage?
Dernier, monsieur.
Arrivé au dernier étage, ils sortent de l'ascenseur. Le policier va sonner à la porte de l'appartement. Attends un peu. La porte s'ouvre. Un domestique, le policier lui dit « C'est bien votre fils de... C'est bien le fils de la maison ?»«
Oui, monsieur. »
« Que faisait-il dehors ?» Le domestique lui dit « Est-il allé faire des devoirs chez un ami ?»«
Bien, je vous le rends. Au revoir. »«
Merci. » Et le policier s'éloigne.
Une fois dehors, le policier va vers une voiture noire.
Il ouvre la portière arrière et entre dans la voiture. Il y a un homme qui est assis à ses côtés, habillé d'un costume noir. Voilà. Il est entré sans encombre et la voiture se met en route.
Reste dans le couloir, penaud.
Les portes s'ouvrent. Clac. La famille au complet vient vers lui. Même sa mère. Son père furieux le gifle. Où étais-tu ?
Frédéric lui dit. Je ne sais pas. J'ai traîné.
Éric le regarde d'un air malicieux.
La mère lui dit. Si tu savais comme je suis fait du souci pour toi, mon chéri.
La grand-mère lui dit. Mauvais sujet. Ça vient du sang. Auguste dit. Tu seras puni d'argent de poche. Demain, je te remets au lycée et tu diras tout ce que tu as à nous dire. Allez, va te coucher.
Tout le monde se retire.
Frédéric va dans sa chambre.
Une heure plus tard, il est réveillé et voit son frère qui se plaque contre lui et qui lui dit « Petit salaud, tu m'as manqué, tu me paieras, tu vas voir, perjure, prends !»
Et le cauchemar reprend pour Frédéric comme si rien ne s'était passé.
Le lendemain, il est réveillé par des coups à la porte.
C'est ton grand-père. Dépêche-toi de te préparer. Je te mène au lycée.
Au lycée, le directeur lui-même les reçoit. Il dit
« Je veux bien reprendre votre fils, votre petit-fils plutôt, parce que c'est un élément exceptionnel. Mais dites-vous bien qu'au lycée Henri IV, nous n'aimons pas ce genre de choses. Nous ne voulons pas de fugueurs.
Et la vie reprend. Frédéric ne dit rien de sa fugue parce qu'il ne se souvient de rien. Éric le menace. Il veut savoir. Et Frédéric lui dit « Fous-moi la paix. Je suis un homme. Je ne veux plus être ta chose. » Éric lui dit « Tu es à moi. Tu es à moi. » La famille pense que c'est une fugue d'adolescents. Tout le monde le pense, sauf Frédéric. Un matin,
Un matin, en allant au lycée, Frédéric voit un chanteur des rues. Il ne sait pas pourquoi, mais ce jeune adolescent lui fait un effet étrange, comme un être qui vient d'un rêve. La fouine. Ne sais pas pourquoi, mais il a une impression de peur. Puis, il a comme une vision. Lui fait apparaître un visage d'enfant à cheveux blonds. Après la fugue de Frédéric au lycée, on le surveille discrètement, parce que c'est un très bon élève. Sa fugue n'a pas retardé son travail scolaire. Ses parents aussi le surveillent. Sa mère lui a dit de ne plus recommencer, et son frère le menace des pires sévices.
Tu es à moi, il n'y a personne d'autre.
Je suis à personne.
Tu vas voir si tu es à personne.
Après, il lui dit,
tu vois que tu es à moi. Je l'ai senti, et toi aussi.
Frédéric lui dit, ça ne veut rien dire.
Si, ça veut dire que tu es à moi. Rien qu'à moi.
Frédéric se dit, il ne peut pas.
Ça ne se peut pas.
Je ne peux pas être à lui.
Je ne peux pas être à toi.
Je suis plus fort que toi.
Les enfants et la mère vivent toujours dans le côté service de l'appartement à Paris. Une nouvelle bonne est embauchée par Amélie. C'est une jeune femme de 22 ans, grande, mince, blonde, cheveux courts qui ondulent. Elle a un petit visage rieur. Elle est surprise de voir la mère de Frédéric dans une chambre du service. Et elle dit,
tiens, ils n'ont pas assez de place.
L'autre bonne lui dit, non, c'est la vieille, la grand-mère. qui l'a mise ici. Les enfants y sont aussi. La famille ne s'entend pas tellement. La vieille est dure. La bonne lui demande « Et qu'a la mère, une maladie de langueur, qu'est-ce que c'est que ça ?»« Elle est très faible. Le médecin va la voir ?»« Oui, bien sûr, mais il ne trouva rien. »
Les enfants passent devant elle pour aller à leur chambre.
La nouvelle bonne dit
« Ils sont mignons !»
L'autre bonne lui dit
« C'est toi qui le dis, plutôt démon qu'ange, surtout le plus grand. »
« Qu'est-ce qu'ils font ?»«
Ça joue à papa-maman, de façon hard. »
« Ah bon ? Avec toi ?»«
Non, ils n'ont besoin de personne. »
La nouvelle bonne ne comprend rien.
Elle a sa chambre à côté de celle de Frédéric.
L'autre bonne lui dit
« Va porter le potage à madame, pas la vieille, l'autre. »
Et frappe.
Entrez.
Elle entre.
Bonjour madame. Bonjour.
La chambre est dans la pénombre. La lampe de chevet s'éclaire et elle voit Antoinette dans son lit, maigre, une chemise de nuit blanche. Elle est très pâle.
La bonne va lui apporter le plateau.
Et le dépose sur le lit. Antoinette a des difficultés à se soulever. La bonne l'aide à se mettre sur son séant. Et comme elle voit qu'elle tremble, elle lui donne à manger.
Madame n'est pas bien, Antoinette lui dit. Ce n'est rien. Je suis lorse. Très lorse. Mais l'on dit que je n'ai rien.
La bonne demande.
Madame va voir le médecin. Il vient de temps en temps, dit que ça va. Et quelle maladie a madame? Une langueur. Retour d'âge. Ou madame a le mal. Surtout au ventre. J'ai des nausées.
La bonne se dit qu'elle doit être bien malade.
Ça lui rappelle la maladie de sa grand-mère, qui s'affaiblissait de plus en plus et n'arrivait plus à avaler que quoi que ce soit, même pas de l'eau.
Elle se dit que peut-être, comme la grand-mère, elle a un cancer.
Après qu'elle a avalé son bouillon, madame a besoin de rien? Non, merci.
Et la bonne quitte la chambre.
Le soir, après avoir aidé à débarrasser le couvert, donné un coup de balai, servi le café au salon, la bonne est allée dans sa chambre lire un peu, couchée dans son lit.
elle lit « Nous deux et confidences » qui font rêver les jeunes filles qui recommencent à rêver au prince charmant. Une heure de lecture, elle s'est endormie sur son lit. Elle est réveillée par des cris, enfin plutôt du bruit confus. Elle se demande ce que c'est et tend l'oreille. Elle entend que ça provient de la pièce voisine, celle de la chambre de Frédéric. Il semble que quelqu'un reçoit des coups. Et pleure. Et qu'une autre personne, de temps en temps, lui crie des injures. Tu es à moi, petit. Tu es à moi, petit salaud. Tu vas voir. Je vais te le montrer. Tu vas la sucer, petit con. Aïe!
Tu me fais mal. Non, non, je ne veux pas.
Mais si, viens, prends. Non, à la main. Non, par là, fais mal. Elle entend gémir de douleur. Elle s'est dit, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'aille aider cette personne. Je me lève d'un bond. Et sort de sa chambre. Va frapper à la chambre d'à côté. Personne ne répond. Elle entend toujours des cris de douleur. J'ai besoin d'aide. Elle frappe et pousse la porte qui s'ouvre. Là, elle voit les deux frères qui se battent, à moitié nus. Le petit qui essaye de faire partir de son lit le plus grand, qui crie, se défend comme il peut, et l'autre qui essaye de le maintenir. Le sexe raide et furieux. Le grand crache sur le petit et le tape. La bonne accourt. De toutes ses forces, elle tire à la renverse Eric qui tombe du lit. Les deux garçons sont surpris tous les deux. La bonne demande à Frédéric. Tu vas mieux? Il lui répond essoufflé. Oui. Elle demande. Qu'est-ce qu'il cherchait à te faire? Frédéric voit le regard d'Eric. Il ne dit rien. Eric furieux, essoufflé, furieux de n'avoir pas pu assouvir son désir, se rhabille.
et sort de la chambre. Le regard noir et menaçant.
La bonne s'approche de Frédéric.
Attends, je vais t'aider à te rhabiller.
Elle aide à remettre de l'ordre à ses vêtements et au lit.
Elle demande, c'est ton frère?
Oui.
Elle lui dit, eh bien c'est un mauvais sujet. Tant que je serai là, il ne viendra plus t'ennuyer.
Frédéric lui dit,
merci.
Elle l'embrasse sur la joue
et lui dit, rendors-toi.
Et elle sort de la chambre.
Elle retourne à la sienne.
Lendemain matin, après le petit déjeuner que la famille a pris au salon, une fois qu'Amélie est seule au salon,
la bonne lui dit, madame, j'aimerais vous parler.
Je vous écoute, ma fille.
Elle lui raconte tout ce qu'elle a vu et entendu.
Amélie fronce ses sourcils. Elle lui dit, « Ce n'est rien. Des histoires de garçons. Il faut qu'ils fassent leurs griffes. Ne vous en occupez pas. »
La bonne lui dit,
« Madame, j'ai été témoin d'un viol. Le pauvre enfant a été victime, violé par l'autre. Il faut empêcher ça. »
Amélie lui dit, « Occupez-vous de vos affaires, ma fille. »
« Bien, madame, mais je suis obligée, c'est de prévenir les autorités. »
Pour personne en danger, et en plus mineur.
Amélie se pince les lèvres et lui dit,
« Nous nous en occuperons. Laissez. Occupez-vous de votre travail. Compris ?»«
Bien, madame. »
Et la bonne la quitte.
Le soir, dans sa chambre avec son mari, Amélie lui dit,
belle bonne me crée des ennuis. Elle a entendu les deux frères se chamailler. Elle a pensé à je ne sais quoi. Elle voulait prévenir la police. Je lui ai dit de s'occuper de ses affaires.
Auguste lui dit, c'est bien fâcheux tout ça. Elle risque c'est de raconter des histoires sur nous à tout le monde. Moi qui viens de me présenter aux élections.
Mande, que faire?
Il lui dit,
elle est à l'essai.
Oui.
Eh bien, renvoie-la.
Amélie lui dit,
cela ne l'empêcha pas. Bien au contraire, te dire des choses sur nous.
Il lui dit,
oui, mais comme elle sera plus là, nous pourrons sévir librement.
Elle lui demande,
comment la faire taire?
Il lui dit,
lui mettre de la terre dans la bouche.
Elle lui dit, « Je comprends, mais qui pourrait faire cette chose pareille ?»
Il lui dit,
« Toujours. »
Elle lui dit, « Bien, je te laisse faire. Moi, demain, je la renvoie. »
Et le lendemain matin, après le café du petit déjeuner, au salon, Amélie dit à la bonne.
Mademoiselle, j'ai à vous parler.
Oui, madame, Amélie lui dit.
Voilà, ma fille. Je suis au regret, c'est de vous dire que je ne peux vous garder. Votre travail n'y est pour rien. Ce n'est qu'une question financière. Voyez-vous, ma fille, mon mari devait faire une bonne affaire et cela m'aurait permis d'avoir une bonne en plus. Mais la chose ne s'est pas faite.
La bonne lui dit, « Je comprends. C'est à cause de ce que je vous ai dit hier matin. »
Amélie lui dit, « Non, pas du tout. »
Dit, « De toute façon, ça ne change rien. Si je veux parler, je parlerai. »
Amélie lui dit, « Mais vous faites ce que vous voulez, ma fille. »
La bonne lui dit, « Merci, madame. Et bien bonne. Et je pars quand ?»
Amélie lui dit, « Tout de suite. Je ne peux pas vous faire perdre de temps. »
Elle sort de sa poche une carte. La bonne lui tend son écran. Amélie met la carte sur l'écran et inscrit la somme, puis rend l'écran. Elle dit à la bonne,
vous pouvez voir que c'est une très bonne somme, et c'est la preuve que je vous estime bien.
La bonne regarde la somme et lui dit,
c'est presque une somme de maître chanteur.
Amélie lui dit,
juste une somme définitive à mettre sur votre déclaration d'impôt.
Merci, madame.
Et la bonne se retire.
Elle retourne à sa chambre. Et se dit,
quelle garce celle-là !
Elle entre dans sa chambre. Et commence à faire ses valises.
Une heure plus tard, elle est partie. Elle a pris un taxi à cause des valises pour rentrer chez elle. Elle habite Faubourg Saint-Jacques, une petite rue étroite et triste, genre années 50, dans un petit immeuble où au rez-de-chaussée se trouve une épicerie générale avec des affiches et des publicités de vitrines de magasins. Genre années 50, il y a même une publicité du vin Marnia, années 50. Maintenant, cascade. On fait continuer la cascade.
voiture s'est arrêtée devant son immeuble. Elle paye et sort. Le chauffeur l'aide à sortir ses valises. Elle ouvre ou plutôt pousse la porte de son allée. L'allée de son immeuble. C'est une petite porte. C'était une porte peinte en bois foncé étroite. L'allée est aussi étroite, sombre. Toute la journée, il y a une ampoule au plafond qui l'éclaire. Le sol, c'est de la pierre. La pierre nue, sombre, noire. Les murs sont peints, sombres et vieux. Il y a des boîtes aux lettres en bois à droite et à gauche, la montée des escaliers, étroits en pierre aussi, rampe en fer peinte en vert. Sous les escaliers se trouve la porte pour aller à la cave, qui est en grillage. Et c'est sombre. Ça sent très mauvais. Les escaliers sont usés et mouillés. Il y a des chats dans la cave qui sont tout aussi dangereux que les rats. Les chats font des petits. À côté de la porte de la cave, il y a le coin poubelle, rempli à ras-bord, sale. Ça sent mauvais. Mais ce genre d'allée, vous connaissez bien. Parce que je vous y fais entrer souvent. Que voulez-vous ? Nous ne pouvons pas aller chez les riches. La bonne, qui s'appelle Denise Lardy, pose sa valise à terre et va ouvrir sa boîte aux lettres.
Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.